Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Frère. Nous accueillons ensemble la présence de ce Dieu qui nous rassemble avec le premier chant que vous trouverez dans le petit livret qui est au début du psautier français, donc ce psaume 95, « Réjouissons-nous au Seigneur ». Comme ça, ça marque bien notre nouvelle année sous le signe de la louange. Criez de joie pour Dieu, il est notre force. J'entends des mots qui m'étaient inconnus, j'ai ôté le poids qui chargeait tes épaules. Ses mains ont déposé mon fardeau. Criez de joie pour Dieu, notre force, acclamez le Dieu de nos pères. Nous chantons à la gloire de Dieu le psaume 67, l'harmonisation B, 67B dans le psautier français. Que Dieu nous bénisse et nous garde, lui dont la joie est de donner. Les deux strophes du psaume 67b. Après avoir ainsi accueilli notre Dieu en notre sein, à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien, c'est très chaleureusement que je voudrais souhaiter la bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous, et en particulier à Ophélie Ninin qui a demandé à être baptisée ce matin parmi nous. Alors merci à vous Ophélie, c'est quelque chose qui pour nous est un véritable enrichissement et une joie. Voici les 10 paroles qui nous ont été donnés pour vivre. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a libéré de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image pour te prosterner devant elle et pour les servir. Tu ne prendras pas en vain le nom de l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne trahiras pas ceux qui t'aiment, tu ne feras pas de vol, tu ne diras pas de mensonge contre ton prochain, et tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. » Et voici comment Jésus-Christ a résumé toute la loi dans cette seule parole. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et il ajoute « Tu l'aimeras avec intelligence. » C'est là le premier et le grand commandement, nous dit-il, et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. » Et nous disons notre désir d'être aidé, guéri par Dieu, en suivant du cœur ce psaume de David. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense, oui, je connais mon péché, et ma faute est toujours devant moi. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Mais tu veux au fond de moi la vérité, la fidélité, et dans le secret tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête, et ils danseront les eaux broyées. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit, ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint, mais rends-moi la joie d'être sauvé. Mais tous ceux qui se tournent vers Dieu reçoivent de lui directement, au plus profond d'eux-mêmes, la certitude de son amour et la grâce d'une vie renouvelée, ressuscitée. Vous qui avez faim et soif de son pardon, vous êtes heureux car Dieu vous pardonne. Vous qui avez faim et soif de sa présence, vous êtes heureux car en Christ, il vient demeurer en vous, vous fortifier et vous guider. Vous qui avez faim et soif d'amour, vous êtes heureux car notre Père nous bénit et nous garde en Jésus-Christ. Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. Vous pouvez prendre place. Donc c'est avec joie de vous accueillir, Ophélie, très sincèrement. Vous avez demandé le baptême pour recevoir le signe de ce salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et vous le manifestez donc avec cette présence aujourd'hui par ce baptême et cela dit aussi le désir de devenir membre de cette large famille, large communauté de tous ceux qui cherchent Dieu en Christ. Au-delà des chapelles particulières, des confessions particulières, nous sommes profondément unis, bien sûr, par ce Christ. Le baptême, c'est le signe de l'amour que Dieu a pour vous en particulier, Ophélie. Alors bien sûr, avant même que vous le cherchiez, il était déjà auprès de vous pour vous donner la vie, pour vous éveiller toutes les merveilles qui sont en vous. Et rien ne vous privera de cet amour, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni celles à venir. Et puis ce baptême n'ajoute rien à l'amour de Dieu, c'est une façon de marquer d'une pierre dans ce cheminement qui est le vôtre, eh bien, c'est vraiment cette présence de Dieu qui bénit, qui accompagne et qui donne la vie. Dans la liberté que Dieu nous donne de rentrer ou de ne pas rentrer dans son alliance, Ophélie, vous répondez à cet amour de Dieu en demandant le signe du baptême. À ce Dieu qui vous dit « Tu es ma fille bien-aimée », vous lui répondez, bien sûr, d'abord dans votre cœur, mais aujourd'hui, parmi nous, « Toi, tu es mon Dieu et mon Père que j'ai dans les cieux. » Alors vous vous êtes préparé à ce baptême dans votre cœur, dans la lecture de la Bible, dans la prière, en discutant avec votre fiancé catholique, et puis ensuite peut-être sur le site internet de l'oratoire aussi, et puis vous avez découvert le protestantisme. Et cela vous a conforté dans votre foi chrétienne qui s'est nourrie de 1000 témoignages. Tout ce chemin parcouru jusqu'à ce matin nous porte déjà à la joie et à la reconnaissance, mais ce chemin est largement ouvert devant vous et vous pourrez l'enrichir de rencontres, de discussions, de prières, de lectures, de réflexions. Soyez persuadés que le Seigneur, notre Dieu, vous accompagne sur cette route tous les jours et qu'il illuminera toutes choses. Nous prions Dieu. Seigneur, selon ta promesse, envoie ton esprit de lumière et de vie. Tu accueilles Ophélie, le baptême va la marquer du signe de ta grâce, de ton accueil, de ton alliance. Qu'avec le Christ, elle reçoive chaque jour une dimension nouvelle. Ophélie, désormais, ce baptême vous redira que vous n'êtes jamais seul sur le chemin de votre vie. Ce baptême vous appelle à demeurer dans une communion confiante avec Jésus-Christ, en qui vous êtes offerte la joie d'une vie renouvelée, d'une vie créatrice et d'un cheminement confiant grâce à cette présence du Saint-Esprit à l'intérieur de vous-même et puis du Saint-Esprit présent aussi dans les proches qui sont autour de vous. À nous tous, frères et sœurs, ce baptême nous rappelle la grâce qui nous a été faite lors de notre propre baptême peut-être, ou en tout cas de cette bénédiction de Dieu qui nous accompagne. C'est pourquoi c'est vraiment dans la joie et dans la reconnaissance que nous accompagnons Ophélie et qu'avec elle, nous voulons dire notre désir de nous consacrer chaque jour à nouveau, plus profondément, dans le compagnonnage du Christ et dans un service fidèle. Alors Ophélie, je vous propose d'être baptisée. Ophélie, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ophélie, oui, Dieu vous conduira dans le chemin de la vie. Il vous accompagne jour après jour, vous donnant une force, une lumière, une joie, ouvrant vos yeux, ouvrant vos oreilles, suscitant votre louange, votre générosité. Oui, que Dieu vous accompagne, vous bénisse et vous donne d'être bénédiction. En réponse à l'amour de Dieu, voulez-vous confesser la foi qui réunit tous les chrétiens ?
Jésus-Christ est le Seigneur.
Alors c'est vrai que Jésus-Christ est le Seigneur, ça rassemble absolument tous les chrétiens de toutes sortes. Mais c'est bon quand même de creuser nos convictions, creuser ce que nous pensons de Dieu, car c'est aussi comme cela que nous nous ouvrons au meilleur que Dieu nous promet. Alors vous avez préparé une confession de foi qui dit un peu ce qui est important pour vous dans Dieu, dans le Christ, dans l'Esprit, dans la vie. Alors ça sera notre confession de foi pour ce matin. Alors je vous propose de vous lever pour vous unir du cœur à la confession de foi d'Ophélie.
Je crois en Dieu, notre Père Tout-Puissant. Je crois que Dieu est spirituellement à mes côtés. Je crois que Dieu nous épaule tout au long de notre vie. Je crois en Dieu malgré le mal et la souffrance. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, Fils de Dieu, mort sur la croix et ressuscité pour le salut de nos âmes imparfaites. Je crois en sa parole, source de richesse pour notre esprit. Je crois en l'Esprit Saint, invisible et rassurant. Il nous aide à progresser dans notre cheminement personnel de foi. Je crois que l'Esprit Saint nous permet de choisir ce qui est bon pour nous et pour les autres. Je crois qu'il nous guide vers la joie en nous rappelant à chaque instant que Dieu est à nos côtés. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, là où est la haine, que je mette l'amour, là où est l'offense, que je mette le pardon, là où est la discorde, que je mette l'union, là où est l'erreur, que je mette la vérité, là où est le doute, que je mette la foi, là où est le désespoir, que je mette l'espérance, là où sont les ténèbres, que je mette la lumière, là où est la tristesse, que je mette la joie. Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en se pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen.
Un grand merci, Ophélie, d'avoir mêlé ainsi des convictions intelligentes, sincères et vraies, et puis aussi cette humilité donc, de la prière et de cette demande que Dieu vous envoie finalement en mission pour ce service de la paix. Alors nous pouvons chanter. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Vous pouvez vous asseoir, mais vous, je vous garde. Vous pouvez. Hein? Bon. Ophélie, vous avez reçu le baptême, signe de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Vous avez confirmé cette grâce par votre foi. Nous vous recevons avec grande joie, donc, comme membre de l'Église universelle, de l'Église chrétienne au sens large, et membre, bien sûr, de notre Église de l'Oratoire en particulier. Que le Saint-Esprit affermisse votre foi, qu'il vous accorde ses dons et qu'il vous les renouvelle jour après jour. Nous prions Dieu. Ô notre Père, nous te remercions pour Ophélie, pour sa foi, pour sa démarche intelligente et vraie. Merci de nous permettre de l'accueillir aujourd'hui, c'est pour nous une grâce. Fortifie tout particulièrement la foi d'Ophélie dans son couple, dans sa famille, autour d'elle, qu'elle soit bénédiction, qu'elle rayonne, qu'elle apporte vie, joie, force, espérance à ceux qu'elle croisera sur sa route. Et que son témoignage parmi nous nous aide à nous-mêmes, jour après jour, dimanche après dimanche, année après année, à nous approcher sans cesse plus de toi, à nous laisser guérir, ressusciter, mettre en route par toi, à être plus confiants dans ta parole et à mieux nous mettre ainsi au service des autres, à accepter aussi le service, l'aide des autres pour un service plus fidèle, pour former corps ensemble. Que ta joie, ô notre Père, soit notre force. Amen. Merci. Le livre du Lévitique dans la Bible est très indigeste, avec des rites sortis tout droit de la préhistoire, avec des ordres contraires absolument à l'Évangile, comme d'appliquer la peine de mort pour le blasphème, par exemple. Et puis des principes de pureté et d'impureté qui sont assez étranges. Par exemple, le fait d'accoucher d'un garçon rend la femme impure une semaine, c'est déjà assez curieux, mais accoucher d'une fille rend impure pendant 2 semaines. Expliquez-moi ça. Mais nous sommes ici pour chercher ensemble ce que la parole de Dieu a pour nous dans le choc entre la Bible et puis notre existence quotidienne. Alors je vous propose d'ouvrir avec courage ce livre du Lévitique ce matin, de l'ouvrir à une page difficile, alors que j'aurais pu prendre des perles qui sont enfouies dans ce livre, comme « Aime ton prochain comme toi-même » que reprend Jésus, non, de le prendre une page bien difficile. Alors on a quand même le droit de faire le tri dans les textes bibliques, car tout n'est pas nécessairement bon, tout n'est pas nécessairement bon pour nous aujourd'hui, mais pourtant ces textes parlent de la vie, ils parlent de la foi, ils posent des bonnes questions sur l'homme et sur Dieu. Et en particulier ces bonnes questions, quand on les lit avec dans la tête l'évangile de Jésus-Christ qui annonce l'amour de chacun de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous, eh bien, nous pouvons vraiment en tirer quelque chose. Alors, peu avant Noël, je vous avais lu un texte où Jésus invitait des lépreux à aller monter vers les sacrificateurs pour accomplir un des rites du Lévitique. Alors, je ne vous avais pas lu le texte biblique qui raconte ce rite, parce que je trouvais que c'était quand même un peu exagéré. Mais écoutons-le ce matin. Donc, c'est au chapitre 14 du livre du Lévitique. L'Éternel parla à Moïse et dit « Voici quelle sera la loi concernant le lépreux le jour de sa purification. On l'amènera vers le sacrificateur et le sacrificateur sortira du camp. » Parce que le lépreux a été chassé en dehors du camp pour sa lèpre. « Si le sacrificateur voit que le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Quant à l'oiseau vivant, il le prendra ainsi que le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera, ainsi que l'oiseau vivant, dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et lâchera dans la campagne l'oiseau vivant. Celui qui se purifie nettoiera ses vêtements, rasera tout son poil et se lavera dans l'eau et il sera pur. Ensuite il pourra rentrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Le 7e jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe jusqu'à ses sourcils. Il rasera tout son poil, il nettoiera ses vêtements, il lavera son corps dans l'eau et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 agneaux sans défaut et une brebis d'un an et sans défaut, 3/10 de fleurs de farine en offrande, pétrie à l'huile et un log d'huile. Le sacrificateur qui fait la purification placera l'homme qui se purifie et ses offrandes devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Le sacrificateur prendra l'un des agneaux, l'offrira en sacrifice de culpabilité avec le log d'huile. Il fera devant l'Éternel le geste de les dédier. Il égorgera l'agneau dans le lieu où l'on égorge la victime pour le péché et l'holocauste dans le lieu saint. Car la victime de culpabilité, comme la victime pour le péché, est pour le sacrificateur, c'est une chose sainte. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité, le sacrificateur en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur prendra le log d'huile et l'en versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche et fera avec le doigt 7 fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, puis sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qu'il lui reste d'huile dans la main, sur la tête de celui qui se purifie, et le sacrificateur fera ensuite pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis le sacrificateur accomplira le sacrifice pour le péché, il fera pour celui qui se purifie l'expiation de sa souillure, ensuite il égorgera l'holocauste. Le sacrificateur offrira sur l'autel l'holocauste et l'offrande. Le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation, et alors il sera pur. Alors en écho, je voudrais vous lire un texte de l'Évangile du Christ qui parle lui aussi des commandements de Dieu, et puis de notre pureté et de notre impureté. Alors c'est au chapitre 15 de l'Évangile selon Matthieu, à partir du verset 7. Jésus nous dit, « Hypocrite, Jésus a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'il me rende un culte en enseignant des doctrines et des préceptes humains. » Jésus appela à lui la foule et lui dit, « Vous, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend impur l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ça qui rend l'homme impur. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Mais est-ce que tu sais que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre ta parole ?» Il répondit, « Toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les donc. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. » Pierre prit la parole et lui dit, « Explique-nous donc cette parabole. » Jésus lui dit, « Vous aussi, vous êtes sans intelligence ? Comment ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté aux toilettes ? Mais c'est ce qui sort de la bouche qui provient du cœur, et c'est le cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, la prostitution, les vols, le faux témoignage, le blasphème. Voilà ce qui souille l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne peut pas rendre l'homme impur. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Alors pour souffler un peu, je vous propose de chanter au psaume 72 dans le psautier français les trois strophes « Revêt Seigneur de ta justice pour que Christ soit donc Christ pour nous ». Revêt Seigneur de ta justice, psaume 72, les trois premières strophes. Ô notre Dieu, merci pour cette vie que tu nous donnes, pour le pain que nous pouvons manger, pour ces frères et sœurs que nous avons pour nous aimer et pour que nous les aimions. Merci pour ton esprit qui nous permet de trouver une parole de toi dans nos Écritures. Une parole qui nous apprend combien nous sommes importants à tes yeux. Une parole qui fait de nous tes enfants. Alors nous avons du mal évidemment à nous remettre dans cette façon de penser de l'époque du Lévitique. Le fidèle devait faire attention scrupuleusement dans les moindres détails pour garder de tout ce qui pouvait le rendre impur. La moindre contact avec une bestiole impure suffisait. Les sacrificateurs devaient veiller à la séparation stricte entre le pur et l'impur. Dans la logique du Lévitique, c'est une question de survie pour tout le peuple. En effet, l'impur est contagieux et le pur devient impur par simple contact, par moindre contact. Les choses ne sont donc pas symétriques et le peuple tout entier est en danger si l'on garde de l'impur. Sans espoir de secours, car Dieu et l'impur, c'est un peu comme le feu et la glace, ou comme la lumière avec les ténèbres. Ils ne peuvent entrer en contact l'un avec l'autre sans que l'impur soit immédiatement et totalement détruit. L'impur, qu'est-ce que c'est dans la Bible ? L'impur, c'est ce qui nie la source d'évolution, de beauté et de bonté qu'est Dieu. L'impur, c'est ce qui salit ce qui est bon, ce qui trouble ce qui est limpide. Il est synonyme de déconstruction, de retour au tohu-bohu des origines, où tout est mêlé, le bien et le mal, le juste et l'injuste. Alors Jésus n'est pas un doux rêveur, il est bien placé pour savoir qu'il y a de l'impur dans ce monde et que cela menace sa survie personnelle et le monde, bien sûr. Mais il nous dit que c'est l'homme en général, c'est tout homme qui est en partie impur par son cœur. En effet, nous dit-il, est-ce qui n'a jamais eu la moindre petite mauvaise pensée ? Et donc cela remet complètement en cause le principe même, l'idée de séparation du Lévitique et le projet de faire un petit club de gens purs. Ce n'est pas possible. Et c'est la même démonstration qui permet à Jésus de libérer la femme adultère alors qu'elle allait être lapidée par des personnes qui croyaient bien faire, selon la logique de séparation rigoureuse du Lévitique et du Deutéronome. « Ôtez le méchant du milieu de vous. » D'accord, nous dit ici Jésus, mais le méchant, c'est en chacun de nous. Donc mettons-nous au travail ensemble, les uns pour les autres, et non pour exclure et pour tuer. La réflexion du Lévitique sur la pureté et sa relecture par Jésus, en fait, elle parle de nous. Elle parle de notre monde, oui, il y a des choses, il y a des forces, il y a des situations, il y a des façons de vivre les situations qui peuvent avoir un effet positif, faire créer la vie, nous faire avancer. Et puis d'autres qui souillent, qui laissent le chaos déconstruire la vie ou la pourrir. Jésus garde donc quelque chose du Lévitique, puisqu'il reprend les catégories de pur et d'impur, et à l'occasion, il envoie aussi les lépreux vers les sacrificateurs pour accomplir le rite. Mais Jésus change complètement, profondément, la compréhension de notre rapport à l'impureté. Le livre du Lévitique, il propose de chasser hors du camp ce qui est réputé être frappé de lèpre. Alors il suffit de pas grand-chose. Une calvitie un peu trop sur l'arrière du crâne plutôt que le devant, une peau un peu trop rouge ou trop blanche peut suffire pour être classé lépreux. Et l'homme devra habiter seul, en dehors de la communauté des humains, et crier en se déplaçant « impur, impur, sympathique ». Jésus dénonce ces chasses aux sorcières des intégristes. La lèpre n'est ici finalement qu'un symptôme de l'impureté, pour le Lévitique, pour la Bible en fait. Impureté qui peut se manifester aussi bien sur le corps que sur les vêtements, que sur la maison. Alors ce n'est pas la maladie qui rend impure, mais c'est l'impureté qui rend malade. Et ce n'est pas la contagion de la lèpre qui fait que l'on chasse en dehors du camp le lépreux. Mais c'est la contagion de l'impureté qui pourrait gangréner, je dirais, tout le peuple, tout notre monde, toute notre société. C'est ça la logique du Lévitique. Alors les deux cas les plus connus de lèpre sont ceux de Moïse et ceux de Myriam, sa sœur. Moïse est envoyé vers Dieu, par Dieu vers les siens pour leur annoncer que Dieu va les libérer de leur esclavage en Égypte. Et Moïse répond « Ils ne me croiront jamais ». Moïse doute ainsi de Dieu, il accuse ses frères d'être bouchés. Aussitôt, sa main est frappée de lèpre quelques instants. Myriam se met à critiquer elle se met à critiquer Moïse d'avoir pris une femme étrangère, une fois de plus. Puis elle continue en disant « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Est-ce qu'il ne parle pas aussi par nous, Aaron et moi-même ?» Et Myriam va être frappée d'une lèpre qui la rend entièrement blanche de lèpre, voilà, et ça va durer 8 jours. Alors comment donc Moïse et Myriam sont ainsi signalés comme étant source d'impureté, comme étant impurs? Comment est-ce qu'ils ont été source de chaos? Ils ont mal parlé contre Dieu et contre leurs frères. Et ben, ils n'ont pourtant rien dit de terrible. Comme le dit Moïse, il est bien possible que le peuple n'écoute pas. Mais Moïse accuse d'avance. Il sème le doute et il prend ça comme un prétexte de ne pas marcher avec les autres ni pour les autres. Et Myriam a raison de dire que c'est contre la loi d'épouser une étrangère, c'est contraire au code de pureté qui impose par précaution de se tenir à l'écart de ceux qui sont à l'extérieur pour ne pas risquer de se laisser contaminer par leur impureté. Myriam a donc raison de dire que selon la lettre de la loi, Moïse a fait une faute, mais elle humilie Moïse, qui est abattu, qui ne sait pas quoi répondre. Et elle en profite pour dire qu'elle aussi et Aaron sont prophètes et ont leur mot à dire, ce qui est parfaitement vrai d'ailleurs. Mais ce n'était pas non plus à elle de le revendiquer. Alors la mauvaise parole qui provoque la lèpre est ainsi une parole qui diminue l'autre, un peu. Une parole qui nous compare aux autres, une parole qui nous désengage de notre responsabilité vis-à-vis des autres, une parole qui est une graine de régression, de chaos. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ces épisodes de Moïse et de Myriam, qui forment l'archétype même de l'impureté, ce n'est pas un geste terrible comme un meurtre ou une trahison comme un adultère ou une calomnie. Nous avons ici une parole qui dissout un peu la communauté par le doute, par la jalousie, par du manque d'espérance ou finalement par une parole méchante. Et ce qui est bien, c'est que ce sont des personnages par ailleurs extraordinaires comme Moïse et comme Myriam qui sont ici l'archétype même, le symbole même de l'impureté, de la parole méchante, et cela peut nous rendre modestes et nous encourager en même temps. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il va faire de ça? Il reprend cette façon de voir quand il dit que c'est la parole méchante, c'est ce qui sort de la bouche qui rend l'homme impur, car ce qui sort de la bouche vient du cœur, et que c'est du cœur finalement que viennent les choses qui vont rendre l'homme impur, l'homme en général, et donc tout homme en fait. Le Lévitique, il invite à chasser du camp l'homme marqué par la lèpre, il invite à le lapider, à isoler l'impureté. L'impureté de l'homme est un problème, c'est vrai, c'est une question qui se pose à nous, à notre Église, à notre société, à nous-mêmes. C'est une des réponses possibles, celle du Lévitique. C'est en effet de chercher à se serrer les coudes dans un petit club des plus justes possibles, des personnes les plus justes possibles, et de bien chasser les méchants en dehors. Ôtez le méchant du milieu de vous. Mais Jésus réagit différemment. Ce qu'il dit, c'est plutôt ôter le méchant du dedans de vous, en fait. Le danger pour nous, dit-il, ne vient pas de l'extérieur, comme une impureté contagieuse, mais le danger est de toute façon déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Alors comment réagir? Jésus parle aux lépreux, il les envoie non encore guéris, se montrer au sacrificateur. Jésus réintègre finalement donc dans le camp, malgré les signes d'impureté. Nous sommes de toute façon tous plus ou moins impurs. La vraie source de chaos, c'est de vouloir chasser l'homme. L'homme impur, bien sûr, certes, mais de le chasser au lieu de s'unir ensemble contre l'impureté. L'impureté, c'est donc à ce moment-là, c'est, si vous voulez, toutes les forces qui vont être centrifuges, qui vont séparer, déchirer, écarter, alors que Jésus propose au contraire une action centripète, c'est-à-dire qui va réunir, qui va rassembler, qui unit, qui par la compassion. Alors, il va même vers ses lépreux, sans le savoir, sans les lépreux qu'ils ne savent pas qu'ils sont lépreux, que sont ces intégristes finalement, avec leur dévouement extrême, mais aussi leur extrême exigence pour chacun, et leur parole qui exclut. Leur méchanceté, en fait, dit Jésus, c'est un symptôme de la véritable impureté, celle du cœur. Pourtant, selon Jésus, oui, l'impureté reste mauvaise. Elle reste contagieuse. Elle est un poison pour l'homme qui la vit, et aussi pour ceux qui l'agressent à cause de sa méchanceté. Mais c'est une question de méthode, de travail sur l'impureté. Celle de Jésus consiste à travailler sur le cœur, pas sur le symptôme. De lutter en semant du bien plutôt qu'en chassant le méchant. Alors cela dit, attention, je ne vous dis pas qu'il nous faille toujours et partout aller vers tous les méchants de la terre. Nous ne sommes pas Jésus-Christ. Il faut sentir précisément avec le cœur, comprendre avec notre propre intelligence quelle est notre capacité de digestion des choses mauvaises. En tout cas, nous pouvons savoir que Dieu est comme ça pour nous, lui. Et nous pouvons commencer par faire cela pour nous-mêmes, être attentifs aux symptômes, sans nous exclure hors du camp, sans nous culpabiliser, mais comme un médecin se penche sur un blessé et travaillant sur le cœur des choses, de l'être. C'est alors que nous pourrions reprendre, comme le propose Jésus avec les lépreux, reprendre la purification du Lévitique. Mais reprendre ce rite absolument surréaliste, à la Jésus, finalement, sans attendre la disparition des symptômes pour traiter l'impureté, au contraire, comme une façon d'aller au cœur du problème. Alors, il n'est pas question de prendre deux poulets vivants, d'en égorger un au-dessus de l'eau courante, d'y mêler un peu de poudre de cochenille, un bout de bois de cèdre, un peu de lichen ou d'hysope, je ne sais quoi. Mais ce rite, quand on le regarde bien, il nous appelle à vivre intimement et personnellement ce rite de Yom Kippour, qui est aussi dans le Lévitique, et qui nous dit le pardon de Dieu, et qui nous dit que nous ne sommes pas seulement le méchant de l'histoire, que nous ne sommes pas seulement comme le premier oiseau qui est mort, mais aussi comme le second oiseau qui est vivant et qui peut s'élever, qui peut monter. Nous ne sommes pas seulement dans ce monde comme une source de mort et de sacrifice, comme quand on tue l'oiseau, le premier oiseau, mais aussi potentiellement comme une source de libération pour le second oiseau qui peut alors s'élever vers les hauteurs. L'aspersion du sang avec l'hysope nous invite à nous ouvrir intimement, personnellement, au récit de la Pâque, avec l'histoire de l'aspersion du sang pour que la mort ne passe pas par chez nous, mais qu'elle passe par-dessus. Alors oui, que la mort passe sans nous tuer, que les choses mauvaises, quelles qu'elles soient, celles qui sont dans notre cœur, nous lâchent enfin un peu, comme le Pharaon va laisser partir les Hébreux au travers de l'eau courante de la mer Rouge, du Jourdain, et qu'on puisse aller avec Moïse, donc vers la terre promise. Le bout de bois rouge, ça peut évoquer le temple de Jérusalem qui est fait en cèdre massif. Alors oui, le temple de Jérusalem, c'est le lieu de la purification possible, le lieu de la réconciliation avec Dieu, le lieu de la prière, le lieu de la louange. Et puis le brin de cramoisi, ça peut évoquer la tente de la rencontre, c'est-à-dire cette présence de Dieu qui est au milieu de nous, en nous, pour nous faire cheminer, nous faire évoluer, nous faire avancer. Alors il faudrait lire chaque mot, chaque rite de ce passage du Lévitique pour voir en quoi il nous permet de revivre et de nous approprier nous-mêmes les promesses qui sont celles de la Bible, que ça devienne quelque chose qui nous travaille de l'intérieur. Alors ce rite n'est pas un rite d'exorcisme, ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la magie, puisque ceux qui en bénéficient sont déjà guéris de la lèpre. Mais ce rite est un rite qui ouvre à une évolution venant de Dieu, et dans la conception du Lévitique, si vous voulez, la personne impure, elle est indigne d'entrer en contact avec Dieu. Le lépreux ne peut pas donc bénéficier de ce rite, puisqu'il est encore lépreux. Et le prêtre ne peut même pas s'approcher du lépreux, parce que le prêtre, sinon, va perdre tous ses pouvoirs. Mais pour Jésus, au contraire, notre indignité, elle nous qualifie au contraire, aux yeux de Dieu, pour que le grand prêtre vienne en personne nous aider, nous toucher, nous guérir. Et donc, nul n'est privé du secours de Dieu s'il ne s'en prive lui-même, s'il ne s'exclut lui-même en dehors du camp. Et encore là, Jésus est bien du style à aller le chercher, celui-là qui s'exclut lui-même, de le chercher comme le berger va chercher la brebis perdue jusqu'à la nuit des temps, jusqu'à ce qu'il le retrouve. Alors le rite de Lévitique, il nous invite donc à nous ouvrir personnellement aux promesses de la Bible, dans l'écoute et dans la compréhension, nous dit Jésus. Comme le propose Jésus au verset 10, il nous propose d'entendre, voilà, ces paroles qui nous disent à la suite de ce rite, « Vous êtes purs ». Mais le rite n'est pas fini à cette seule parole. Il reste à se laver extérieurement, nous dit le rite, se laver extérieurement dans les moindres détails. Alors c'est seulement en second lieu, donc, qu'on nous propose d'essayer de purifier ainsi notre extérieur, de purifier nos actes, de purifier nos paroles, et de ne plus être un animal sauvage comme un être couvert de poils. Mais là encore, comment arriverions-nous à purifier nos actes extérieurs, purifier notre extérieur, alors que nous savons bien que nous sommes presque incapables de tenir la moindre des bonnes résolutions? Alors Jésus reprend pour ses disciples quelque chose de ce rite de purification extérieure lors de son dernier repas, nous dit l'Évangile selon Jean. Mais il nous dit que nous n'avons seulement qu'à nous laver les pieds, en fait. Nous laisser laver les pieds par le Christ. Alors Pierre fait le malin et l'orgueilleux, il dit non, non, mais Jésus dit, voilà, c'est indispensable. C'est-à-dire qu'il nous propose, avant même d'essayer de purifier notre extérieur, eh bien de compter sur Christ, de confier au Christ qu'il purifie notre cheminement, c'est-à-dire notre propre dynamique d'évolution, et qu'elle devienne ainsi bien orientée. Et c'est cela qui est prometteur, c'est la clé. Encore une fois, travailler non sur les symptômes, mais aller vraiment travailler sur le cœur, sur le spirituel, sur le cœur du cœur. Mais le rite n'est pas encore fini avec cette opération de lavage. L'opération de purification est terminée. Reste deux sacrifices et une onction. Et là encore, ce n'est pas pour acheter une place dans le cœur de Dieu. Il a déjà tout donné. Mais c'est pour s'en saisir et pour le remercier. Et pour que la reconnaissance nous motive pour se mettre au service. Car c'est ça le sens de l'onction d'huile. C'est à la fois une bénédiction, mais c'est aussi un envoi en mission. Le sacrifice du Christ non plus n'achète pas le pardon de Dieu, comme dans ce rite. Tout a déjà été donné avant. Donc la méthode du Lévitique, c'est de chasser l'impur hors du camp. C'est la méthode intégriste. L'impur est chassé hors du groupe, et tant que les symptômes visibles persistent, il n'est pas question qu'il y entre. L'homme impur, non seulement est déjà malade, mais en plus il est considéré comme indigne de faire partie de la communauté. Alors voilà, quand quelqu'un fait une faute morale ou théologique, il est stigmatisé, comme Myriam le fait en croyant bien faire. Voilà, l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions en dénonçant les fautes de son frère. Mais c'est en faisant cela qu'elle, elle est impure et source d'impureté, de chaos. Alors les intégristes ici, ils critiquent Jésus. Ils ont 1000 dogmes extraordinairement raffinés qu'il faut croire, des choses à faire, à ne pas faire, au risque d'être déclaré impur et d'être chassé de la communion ou même de la vie. Au contraire, Jésus nous dit d'avoir confiance, d'écouter Dieu directement, de réfléchir à notre intelligence, de comprendre et d'y mettre du cœur. C'est par grâce que nous sommes servis par Christ, nous ne lui devons donc rien. C'est par grâce que nous pouvons, alors à notre tour, pouvons un petit peu servir l'impur qui se coupe de Dieu et de tous, s'il le veut bien. Sinon, laissez-les, nous dit Jésus, laissez ces plantes que Dieu n'a pas semées, elles se sécheront par elles-mêmes et elles seront déracinées. Laissez-les, nous dit Jésus en parlant des intégristes, nul n'est exclu de la communauté s'il ne s'exclut lui-même, mais vous. Vous, écoutez et comprenez. Amen. Alors je vous propose de chanter au cantique 289 dans le petit recueil, louange et prière. Le cantique 289, bienheureux qui t'aime, Jésus, bien suprême, source du bonheur. Donc les trois strophes de ce cantique 289. pouvez vous asseoir. Alors après donc les vacances, il y a toujours pas mal d'activités dans la semaine, donc les annonces iront un peu vite. Vous trouverez, on a fait une feuille avec les annonces que vous trouverez affichées à la sortie pour s'il y a quelque chose qui passe trop vite. Sinon, vous pouvez prendre aussi la feuille rose, le bulletin de notre paroisse sur la table à la sortie, si vous ne l'avez pas reçu, et vous pourrez trouver le texte de la méditation que je vous ai proposé pour être d'accord avec quelque chose, pas d'accord avec une autre. Alors, c'est à midi, en face, il y a donc le repas paroissial. Nous sommes accueillis avec un festin de Nouvel An. Donc, tout le monde est bienvenu, même si vous ne vous êtes pas inscrit, eh bien, on va couper les cuisses de poulet en quatre, mais il y aura pour tout le monde. Demain, lundi à 19h30, il y a le grec biblique pour débutants qui ne sont plus si débutants que ça, mais salle Roberti au rez-de-chaussée. Lundi soir à 20h, il y a l'approfondissement théologique, donc on voit un théologien du XXe siècle par mois, et donc demain soir à 20h, c'est donc Paul Tillich, ce qui nous fait assez plaisir parce qu'on aime bien ce monsieur. Mardi à 14h30, il y a le groupe biblique qui est animé par mon cher collègue James Woody, toujours sur le livre d'Ézéchiel au chapitre 16, sur l'histoire symbolique de Jérusalem. Mardi à 14h30, en face. Alors il y a le cours de peinture du groupe protestant des artistes qui accueille ceux qui le désirent mercredi matin. Il y a mercredi à 14h30 ici même un culte d'action de grâce pour Annie Valoton. Alors c'est vrai que nous avions une affection, une admiration toute particulière pour cette grande dame qui d'abord était rayonnante dans notre paroisse, mais qui en plus est l'artiste qui est la plus publiée au monde en fait. Parce que ces 500 et quelques dessins étaient dans à peu près toutes les Bibles, en français courant, en anglais courant, en espagnol courant, en groenlandais courant, de tous les pays du monde. Ce qui fait qu'elle a été publiée, des milliards de ces dessins ont été diffusés partout. Donc nous avons un culte d'action de grâce pour elle, mercredi après-midi. Alors je pense aussi à la famille de Jean-Daniel Parizet, qui a donc perdu sa mère il y a quelques jours, et un service d'action de grâce sera donc pour Madame Parizet dans quelques semaines. Mercredi à 15h30, il y a le grec biblique confirmé, en face aussi. Mercredi soir à 20h, c'est le groupe biblique qui est commun avec l'église Saint-Eustache, avec le père Prigent et moi-même. Donc nous continuons sur la joie finalement qui nous est donnée, promise, en lisant les Béatitudes et le psaume premier, mais la rencontre a lieu donc de impasse Saint-Eustache dans le presbytère de Saint-Eustache. Jeudi, il y a la répétition du chœur. C'est vrai que le chœur prend un nouveau départ et donc il recrute tout pupitre, mais surtout quand même les ténors et les basses, car il nous manque des hommes. Samedi, il y a l'hébreu biblique avec l'excellent Gilles Castelnau, qui accueille ceux qui s'intéressent à l'hébreu pour tout niveau. Et puis, dimanche, il y a le culte ici même, c'est James qui donnera la prédication, mais nous accueillerons ensemble les jeunes, puisque c'est un dimanche donc d'éducation biblique. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. Nous avons tout reçu gratuitement, et cette offrande est un signe de notre reconnaissance à Dieu, mais aussi concrètement une participation qui permet à l'Église de porter ce message de foi, d'espérance et d'amour dont notre monde a tant et tant besoin. Nous prions Dieu. Ô Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous accordes de recevoir ta parole directement au plus profond de notre méditation personnelle, de notre réflexion, de notre prière. Les appels et les consolations de ta parole, ces blessures et ces guérisons nous font vivre de plus en plus de ton amour. Elle conduit notre soif vers ton royaume pour plus de justice et pour cette mission éternelle, notre Dieu, purifie-nous, inspire-nous, fortifie-nous, illumine-nous. Accorde les mêmes grâces à ceux qui nous sont chers, nos bien-aimés que nous te nommons dans le secret de notre pensée. Et puis éternel, soutiens les malheureux auxquels personne ne pense. Illumine et réconforte ceux qui fléchissent. Nous te prions pour ceux qui t'aiment et qui trouvent leur joie dans ton amour. Nous te prions pour ceux qui te cherchent et qui espèrent en toi. Pour ceux qui t'ignorent ou te méconnaissent et que ton amour attend, cherche, appelle. Et unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service et à notre service mutuel, en communion avec tous les croyants de toutes les églises, de toutes les générations, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons cette bénédiction que Dieu nous adresse en particulier. Que l'Éternel te bénisse, toi, et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa lumière sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Oui, la paix que Dieu donne en Christ et que le monde ne peut vous donner, vous est donnée. Tous mes vœux de bénédiction pour vous et pour ceux que vous aimez pour cette nouvelle année de grâce du Seigneur.